France Culture.
Les nuits de France Culture.
C'était durant l'été 1946 sur la chaîne nationale. Avec pour thème la liberté d'expression dans la presse et dirigé par Arnaud Charlebrun, un débat réunissait les journalistes Fernand Pouet, Raymond Manévy, Georges Altschuler, ainsi que le fondateur de la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme, devenue depuis la LICRA, Bernard Lecache, journaliste lui aussi. Enfin, last but not least, participait également à ce débat le génial et immortel Pierre Dac, qui, comme on va l'entendre, concluait la discussion de la plus magistrale et inattendue des manières. La liberté d'expression dans la presse, une tribune de Paris diffusée le 5 juillet 1946 sur la chaîne nationale.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Mis dans l'impossibilité de poursuivre régulièrement sa publication hebdomadaire, Le Clou a fait paraître ce matin son premier numéro mensuel.
Ce cas pose un problème qui dépasse les difficultés particulières d'un périodique donné.
Ce problème, qui risque à plus ou moins brève échéance de se poser pour les quotidiens eux-mêmes, c'est celui de la liberté d'expression et d'exploitation de la presse française actuelle.
L'équipe du Clou expose les données de ce problème. Autour de Bernard Lecache, nous avons en ce moment dans notre studio Raymond Manévy, Fernand Pouet, Georges Altschuler et Pierre Dac.
Arnaud Charlebrun va mener le débat.
Eh bien, messieurs, la question que nous allons vous poser ce soir, en l'absence de notre ami Guimard, qui est absent de Paris, est la suivante. La liberté de la presse est-elle possible? Et en admettant que la liberté de penser ce qu'on écrit et d'écrire ce qu'on pense existe, peut-on publier ce qu'on a écrit? Et je vais me tourner tout de suite vers Bernard Lecache.
Eh bien, puisque la tribune de Paris veut bien nous accorder à nouveau l'hospitalité, nous allons parler de ce que je considère comme étant un mythe, la liberté de la presse. Pour ma part, je vous le dis tout net, je crois qu'elle n'existe pas.
C'est Fernand Pouet qui demande à prendre la parole. Eh bien,
tu sembles le regretter.
Comment?
Écoute, la Convention n'était pas aussi catégorique que toi. Tu te souviens que nous avons vécu seulement pendant quelques mois en France sous le régime de la liberté absolue de la presse. Le décret du 17 mars 91 avait rendu entièrement libre la profession d'imprimeur. Et en même temps, la Constitution du 3 septembre 91 avait accordé à tout homme la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer, de publier ses pensées sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection préalable, c'est-à-dire n'importe qui pouvait écrire n'importe quoi. Et à la suite des abus qu'a entraîné cette liberté absolue, la Convention a dû décréter que ceux qui provoqueraient par leurs écrits le meurtre et la violation des propriétés seraient punis de la peine de mort ou, selon les cas, de 6 ans de fer.
Oui, mais pas de plaisanterie, mon petit Fernand. Quand je réclame la liberté de la presse, bien entendu, je ne la réclame ni pour les assassins, ni pour les escarpes, ni pour les crapules.
Oui, mais alors, dans ces conditions, Lecache, toi...
C'est Georges Altschuler
qui est non-conformiste. Alors, tu admettrais, par exemple, qu'un journal fasciste, à l'heure actuelle, puisse faire l'éloge de Pétain, puisse dire, écrire dans son journal que, par exemple, Pétain n'a pas démérité, que Pétain n'est pas déshonoré?
Je t'aime beaucoup, mon petit Altschuler, mais si tu continues à plaisanter de la sorte, rends-moi mes billes. Je suis pour la liberté de la presse, la liberté sans rivage, chère à Jules Vallès, mais bien entendu, je suis contre la fausse liberté, celle qui outrage, celle qui diffame les personnes et les collectivités dans leurs convictions les plus intimes, dans leur foi sincère, celle qui appelle au meurtre, celle qui a pour conclusion naturelle de vous amener au four crématoire.
C'est-à-dire qu'au fond...
C'est Raymond Manévy qui prend la parole en ce moment.
Bernard Lecache n'est partisan que d'une liberté limitée.
Parfaitement.
La liberté absolue, c'est le droit pour n'importe qui d'écrire et de publier n'importe quoi, n'importe comment, sur n'importe quel sujet. Cette liberté absolue est-elle possible? Il est évident qu'elle n'est pas possible.
Sans aucun doute.
Parce que les Jacobins eux-mêmes l'avaient reconnu, qui ne voulaient pas de la liberté absolue. Et Dufresne, au lendemain de Thermidor, à l'époque où Tallien essayait de ramener, demandait la liberté totale, Dufresne déclarait aux Jacobins que s'il n'avait pas le droit de se servir de son couteau pour assassiner ses enfants, il n'avait pas davantage celui d'assassiner sa patrie par ses écrits. Ainsi, il répondait à l'avance à la question qu'Altschuler posait tout à l'heure à notre ami Bernard Lecache, lorsqu'il lui disait « Tu n'admettrais pas que la presse fasciste puisse reparaître actuellement, ni qu'un organe pétiniste puisse développer la thèse des défenseurs de la collaboration. »
Alors Bernard Lecache, voulez-vous répondre à Raymond Manville?
Je résume ma réponse, pas de liberté pour les ennemis de la liberté.
Oui, ah ben c'est
Pierre Dac va nous dire quelque chose.
C'est exactement mon avis. Oui, en ce qui me concerne, et suivant d'ailleurs la formule de Lostivre, je suis contre.
Tu es contre quoi?
Je suis contre tous ceux qui sont pour ceux qui sont contre la liberté de la presse.
Fort bien.
Et voilà qui avance singulièrement le débat.
Bien sûr.
Mais voyons, passons un petit peu alors à une définition plus sérieuse et plus serrée.
C'est sérieux.
Alors qu'est-ce qui veut prendre la parole?
C'est encore moi, je m'excuse.
Je cache, allez-y.
Mais je voudrais dire que nous qui réclamons la liberté de la presse, nous ne sommes pas sans reproche. Et même sans le vouloir, nous sommes de fieffés hypocrites. Nous imaginons qu'il suffit de nous placer devant notre écritoire, avec le stylo en main, pour pondre un chef-d'œuvre, bien entendu, et pour exprimer intégralement une pensée que nous croyons noble et saine, pour que la liberté de la presse soit assurée. Pas du tout, nous n'avons rien résolu du tout, car pour moi, l'essentiel, c'est la liberté d'expression de la pensée, la liberté d'exploitation d'un journal. Tout le problème est là.
Eh bien, messieurs, il ressort de ce que nous venons de dire que la liberté d'expression est soumise, somme toute, par cela même, par de l'aveu même de cela même qui la respecte et qui la réclame, à certaines restrictions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres restrictions à apporter à cette liberté d'expression?
Si, il y en a une.
Georges Altschuler.
Il y en a une, c'est la probité professionnelle. Elle restreint également certaines formes de notre liberté d'expression, n'est-ce pas? Et à ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. C'est qu'il y a quelques mois, au cours de la précédente législature, j'ai assisté professionnellement à des débats au Parlement qui m'ont donné à penser que la crise ministérielle était proche. Je l'ai écrit dans mon journal. Et le lendemain matin, en arrivant à la Chambre, au Palais Bourbon, les confrères se sont précipités vers moi et m'ont reproché, très durement, d'avoir alarmé l'opinion, alarmé mes lecteurs. Eh bien, j'ai protesté. Je leur ai dit qu'ils avaient une curieuse façon d'envisager l'information, leur rôle d'informateur. Et je me suis refusé, quant à moi, à accepter toute directive de silence, par exemple.
Au fond, c'est la forme sous laquelle vous avez présenté cette information qui leur a déplu.
Qui leur a
déplu.
Donc
c'est une question de forme.
D'accord, c'est une question de forme. Mais c'est également une question de probité, n'est-ce pas? Moi, j'ai pensé que je devais renseigner mes lecteurs. C'était là mon rôle d'informateur.
Oui, c'est tout à fait mon avis.
Pierre Dac intervient.
C'est tout à fait mon avis. Je sais bien qu'il y a différentes façons de raconter les choses. On peut raconter la même chose de diverses façons, à la condition qu'il y ait à la base une honnêteté et une probité fondamentale. Je pense que ça doit être des éléments qui doivent être l'honneur du journalisme, l'honneur de la profession. J'ai un petit exemple personnel et tout récent d'ailleurs à ce propos. Je suis allé mercredi dernier au procès du SPAC. Ma femme, qui avait été arrêtée en 1944, était citée, alors par suite d'une erreur de l'avocat d'un des accusés. On a cru que j'étais cité. Bon, l'incident était d'ailleurs tout à fait bénin, sans aucune importance, et s'est déroulé d'une manière tout à fait calme et fort courtoise. Et dans l'ensemble, mes confrères de la presse parisienne ont compté l'incident. Ont compté l'incident d'une manière tout à fait pertinente, sauf un ou deux, et un, entre parenthèses, qui a raconté cette histoire d'une manière absolument extraordinaire, en me faisant passer pour un pitre et un idiot, d'ailleurs, c'est possible d'ailleurs, mais enfin, en disant que j'essayais de faire l'idiot dans une audience de la Cour de justice, c'était parfaitement déplacé. En somme, ça avait l'air, pour moi, une petite manifestation de cabotinage des publicitaires. J'estime que ce sont des procédés absolument inqualifiables, étant donné que ce qui s'était passé n'a pas du tout été raconté par le journaliste qui a raconté une petite histoire à sa manière. J'ai d'ailleurs averti que je tenais à sa disposition une paire de gifles dont il pourra prendre livraison quand il voudra.
Bon, alors, en somme, nous convenons que la probité professionnelle comporte également des engagements, n'est-ce pas, et limite la liberté d'expression dans une certaine mesure. Voyons maintenant si nous n'avons pas une autre façon d'envisager cette question importante de la liberté de la presse. Nous avons vu la liberté d'expression, maintenant je poserai une question, c'est la liberté d'exploitation. La liberté d'exploitation, et je demanderai à Raymond Manvi, non, d'abord à Fernand Pouet qui me fait signe, de nous dire ce qu'il pense de cette liberté de l'exploitation.
À ce propos, je voudrais dire ceci. Nous avons un ami assez nouveau dans le métier. Et il ne peut nous dissimuler ses étonnements devant les habitudes de la presse. Il est venu à nous par le canal de la Résistance et il pensait, dans sa candeur naïve, qu'un journal se gérait comme une affaire commerciale. Or, ce n'est pas vrai du tout. C'est même parfois tout le contraire. Et ce qui lui paraît extraordinaire dans ces conditions, c'est qu'un journal puisse continuer à vivre comme si de rien n'était. Dans les autres industries, il y a beau temps qu'on aurait enregistré des faillites retentissantes.
Mais oui, en effet, il y a des journaux qui doivent à leur échelle beaucoup d'argent, qui doivent par exemple beaucoup d'argent pour des fournitures, et qui ne payent pas, et qui continuent à apparaître, ce qui est vraiment invraisemblable, n'est-ce pas ?
Enfin, il entre là une conception industrielle de l'exploitation. Et je m'adresse à Raymond Manvi, justement, qui peut nous dire quelques mots là-dessus.
L'exploitation d'un journal est maintenant déterminée par les conditions économiques. Depuis la découverte de la linotype et de la rotative, la presse est devenue une industrie. Elle doit obéir aux règles du capitalisme industriel. Il ne peut pas en être autrement. On peut le regretter, mais c'est un fait. Cette industrie, pour s'installer et se développer, a dû faire appel à des capitaux. L'intrusion du capitalisme a eu pour conséquence de limiter la liberté d'expression des journalistes.
Bernard Lecache ?
Eh bien, au lendemain de la libération, tout le monde a été pris d'un zèle magnifique et touchant. Chacun a proclamé que c'en était irrémédiablement fini de la presse pourrie, qu'on ne reverrait plus jamais ça, etc., etc. Que s'est-il passé ? Après la période d'euphorie qui a fait croire à l'âge d'or, au règne de la grande vertu, les difficultés ont commencé, celles que vient de souligner Manvi. On a cru ingénument que les journaux issus de la clandestinité n'auraient qu'à paraître pour drainer vers eux toutes les clientèles et ainsi vivre et prospérer par leurs propres moyens. Ça aurait été très, très bien s'ils étaient restés seuls à vendre leurs marchandises. Mais il y a eu la création, la fameuse création de la fameuse autorisation préalable. Et c'est encore là l'un des problèmes qui restreignent singulièrement la liberté d'exploitation et la liberté d'expression des journalistes. Alors nous qui parlons de la liberté de la presse, nous sommes bien servis avec ça.
L'autorisation préalable.
C'est Raymond Manvi qui prend la parole.
Qui, pour les Républicains, rappelle fâcheusement le Second Empire. Il était inévitable d'y avoir recours au lendemain de la libération. Parce que la quantité de papier à distribuer aux journaux était très limitée et qu'on se trouvait dans la nécessité de fixer un plafond de tirage pour l'ensemble des journaux et pour chaque journal en particulier.
Je vois Pierre Dac qui a envie de dire quelque chose. Je ne voudrais pas l'en priver et surtout nous en priver.
Merci mon cher Monsieur Debrun. Effectivement, mais parce que j'estime, à la suite de ce que dit notre ami Manvi, nous avons fait de très gros progrès. Oui, en vertu de certaines compilations récentes auxquelles je viens de me livrer, je suis en mesure de vous rappeler que sous l'Ancien Régime, l'imprimerie, la librairie étaient soumises à une réglementation très rigoureuse. L'édit de Henri II contre les imprimeurs, confirmé par la déclaration de 1553, ce qui ne nous rajeunit pas, punit de mort tout imprimeur, libraire ou particulier qui imprimera, vendra ou distribuera un ouvrage quelconque sans en avoir obtenu l'autorisation formelle. Vous voyez qu'à cette époque, on n'y allait pas avec le dos de la hallebarde.
Oui, ça paraît beaucoup plus grave.
Oui, mais...
Bernard Lecache.
Ne remontons pas au déluge, nous sommes bien en 1946. Et on s'aperçoit de ceci, c'est qu'à force de distribuer des autorisations préalables, en veux-tu, en voilà, on est arrivé à ce paradoxe plutôt saumâtre, que des tas de journaux sans lecteurs ont pu voir le jour, qu'ils se maintiennent en achetant du papier, hein, du papier qui coûte cher, tandis que les journaux qui sont réclamés par le public, qui ont la faveur publique, ne parviennent pas à assurer la diffusion qu'ils méritent.
Je me pose une question.
C'est Fernand Pouet qui parle.
Avec quel argent ces journaux sans lecteurs assurent-ils leur publication?
Gros malin, ce n'est pas difficile à comprendre. Si son organe d'un parti, la subvention est normale et morale. Sinon, ce n'est pas la peine de faire un croquis.
Mais alors, messieurs, quels sont les journaux qui peuvent subsister normalement? Et là, je pose la question à Jean-Charles Tulle.
Eh bien, il y a deux catégories. Il y a les journaux qui sont les organes d'un parti. Par exemple, si on est socialiste et dans la ligne, communiste et dans la ligne, MRP et dans la ligne, ça va tout seul. Là, il y a liberté d'expression, si l'on peut dire. Mais si on n'est pas complètement d'accord avec ce que l'on pourrait appeler les pontifs, eh bien, on ne peut pas, on peut difficilement vivre et on peut difficilement exprimer son opinion sur tel ou tel sujet.
Ce qui tendrait à prouver que c'est la mort du non-conformisme.
La preuve en est, alors là je réclame à nouveau la parole, mon cher Arnaud Charlebrun, que ce qui tendrait à prouver, comme l'a dit Manvi, qu'on ne peut pas réussir, c'est que nous venons de faire, nous, au clou, une expérience édifiante. Nous avons voulu tenter un effort désintéressé, sans grands capitaux et sans parti puissant derrière nous. Cet effort désintéressé a duré une huitaine de mois, et puis nos caisses sont devenues vides, parce que les conditions d'exploitation d'un journal indépendant, complètement indépendant, sont pratiquement telles que nous ne pouvons pas subsister si nous ne faisons pas appel à des capitaux frais. Frais, c'est une manière de parler, des capitaux plutôt suspects. Et dans ces conditions-là, nous avons préféré nous mettre en veilleuse, et notre expérience que nous livrons à l'édification des foules, à notre sens, est concluante.
Je crains pour ma part,
c'est Fernand Pouet qui intervient,
je crains de voir revenir sur les eaux de grands canards qui seront nagés, qui ne seront pas étouffés par les scrupules, et qui, à l'abri de capitaux imposants, domineront les mers et bourreront les crânes une fois de plus.
Mais enfin, messieurs, ne reste-t-il vraiment aucun espoir de concilier la liberté avec l'exercice de votre profession? Raymond Manvi.
La liberté d'expression et l'argent sont difficilement conciliables. Je sais qu'actuellement, on étudie un statut de la presse qui tend à libérer celle-ci de l'influence corruptrice de l'argent.
Malheureusement, Manvi, tel que je le crois le connaître, ce statut
c'est,
de la presse...
C'est Bernard Lecache qui répond.
Je crains fort que l'on veuille nous mener tout simplement au conformisme des partis.
D'accord, mais je connais la plupart des amis, des camarades qui s'occupent de l'élaboration de ce statut de la
c'est
presse.
C'est Jean-Jacques Schuller qui parle.
Je sais que parmi eux, ils se sont glissés quelques professionnels. Et que pour la plupart, ils ont le goût de cette liberté à laquelle nous tenons tous. Je crois que sans être trop optimiste, nous pouvons leur faire confiance pour qu'ils nous fassent vraiment un statut qui nous accorde cette liberté.
Acceptons-en l'augure.
Moi, je crois tout de même, messieurs, pouvoir vous proposer une solution.
Ah, voici Pierre Dac qui nous apporte une solution in extremis. Nous sommes tout oreilles.
Enfin, elle vaut ce qu'elle vaut. Oui. Mais enfin, eu égard à tout ce qui vient d'être dit, à tout ce qui précède et à tout ce qui s'ensuit.
Quel ton solennel.
Ah, mais c'est normal. Je ne vois vraiment plus qu'un seul moyen.
Lequel?
C'est le retour à la presse clandestine.
Jean-Jacques Schuller, Pierre Dac, Bernard Lecache, Raymond Manvi et Fernand Pouet viennent d'exposer les avatars de la liberté de la presse.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française.
Cette Tribune de Paris a été diffusée le 5 juillet 1946 sur la chaîne nationale.